Il est 8h22.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et avec Alexandra Ben Saïd, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le secrétaire général de la CFDT. Dialogue, questions, réactions dans une dizaine de minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application de France Inter. Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Cette semaine démarre la phase de restitution du grand débat national. L'exécutif va faire la synthèse du 1,5 million de contributions rédigées par les Français. Dans un second temps, dans quelques jours, mettre sur la table les propositions pour y répondre. Début du processus donc tout à l'heure au Grand Palais à Paris avec le Premier ministre. Vous y serez, Laurent Berger. Dites-nous en quelques mots ce que vous attendez ce matin de la part de l'exécutif. Quels mots, quels engagements, quel type de sortie?
Bah, ce matin, aujourd'hui, ça va être juste la restitution, ce qui est déjà beaucoup, mais donc
on va voir ce qu'on retient du 1,5 million.
Voilà, on va voir les photographies entre guillemets de ce que disent les Français. Moi, ce que je retiens de la sortie, ce que j'attends de la sortie de ce grand débat, c'est une ligne claire: écologie, justice sociale. On a un appel, ce mouvement, il a été un appel à la justice sociale, fiscale, territoriale et même à la justice générationnelle, parce qu'on parle assez peu des jeunes, mais leur situation est dramatique. Donc j'en attends d'une ligne directrice dans ces deux directions et ensuite des mesures concrètes qui initient le chemin. Des mesures en termes de rénovation thermique des logements, des mesures en termes de mobilité, de chèque mobilité pour les travailleurs, des mesures en termes de réflexion sur la fiscalité et la contribution des plus hauts revenus. Enfin, qu'on commence à initier un chemin vers l'écologie, la transition écologique juste et la justice sociale.
Ça, c'est ce que vous attendez, mais ce matin, on a quelques indices quand même sur cette restitution, sur ce que disent les Français, en tout cas ceux qui ont contribué en ligne. Alors je lis, de seulement 10% qui réclament le rétablissement de l'ISF, sur l'immigration, la plupart qui réclament un durcissement des conditions d'accueil, et puis les trois quarts qui diraient qu'il faut réduire la dépense publique. Est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que ça vous surprend?
Oui, objectivement, ça me surprend. Le débat, il a beaucoup porté autour de l'ISF. Moi, je dis très clairement depuis le début, en disant, ce qui m'importe, c'est qu'il y ait une contribution plus importante des plus hauts revenus, notamment à travers une tranche supplémentaire ou la taxation de la détention et la transmission de capital. Donc, vous savez, moi, je prendrais ça comme étant la restitution proposée à l'issue du grand débat. Ça ne me fera pas changer d'avis. Ça ne me fera pas changer d'avis que la question migratoire, elle n'a pas été présente dans les débats. En général, on nous dit que c'était dans les cahiers de doléances, mais dans les débats, ça n'a pas été le cas. Et donc, si la restitution, elle est déjà l'orientation vers la porte de sortie, avant même qu'on en discute avec l'ensemble de la société civile, il y aura un souci. Donc, on va voir. Moi, vous savez, la CFDT, elle a décidé de jouer le jeu. On a organisé nos propres débats, les questions qui étaient au cœur des débats qu'on a tenus, avec beaucoup de non-adhérents, hein, des travailleurs, c'était clairement la question de la justice sociale, la justice fiscale. Donc c'est autour de cela que moi j'attends des réponses.
Alors la justice fiscale, on a aussi des pistes. Hein. Celle dans la bouche de Gérald Darmanin, on est sur plafonner les niches fiscales. La majorité, elle est plutôt pour introduire deux nouvelles tranches d'impôts sur le revenu, en gros pour le rendre plus progressif. Est-ce que ces pistes-là, elles vous paraissent aller dans le sens de plus de justice fiscale?
Non mais ce qu'il faut que ce gouvernement comprenne, c'est qu'il y a une attente, sans doute, pour ces deux tranches d'impôts qui soient revues, qui soient plus progressifs, mais il y a une attente que les plus hauts revenus contribuent davantage. Je crois qu'il faut qu'ils comprennent que le changement, l'évolution de l'ISF et en même temps où on a fait les contrats aidés, la baisse des APL, etc., ça a été un choc parce qu'on a eu le sentiment que l'effort c'était pour la grande masse et les avantages pour les très riches. Eh bien, je crois qu'il faut rééquilibrer ça et qu'il faudra, même si dans un premier temps c'est symbolique, il faudra une mesure pour que les plus hauts revenus contribuent davantage à la solidarité nationale. Ça, c'est absolument nécessaire. Et on peut pas nous parler que des dépenses. La CFDT, elle n'a jamais été opposée à regarder ce que devait être l'évolution des services publics, mais à donner le sentiment qu'on répondrait au fait que beaucoup de citoyens ont exprimé le fait qu'il n'y avait pas assez de présence territoriale des services publics, on répondrait par moins de services publics. Par exemple, on ne peut pas considérer que là où des salariés, des citoyens n'ont pas accès à leurs droits parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, on y répondra par moins de services publics et moins d'accompagnement. C'est pas vrai. Donc, moi, j'attends des mesures justes et qui soient des mesures plutôt sociales que des mesures d'économie.
Vous imaginez pouvoir être déçu?
Oui, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête lorsqu'on est syndicaliste depuis quelque temps. Donc, déçu par ce que disent les citoyens français, je serais respectueux parce que je pense qu'il faut l'être, mais je pense qu'on peut être déçu par la sortie s'il n'y a pas un cap, s'il n'y a pas une volonté de revivifier la démocratie, et si finalement tout ça se révèle paraître un jeu de dupes. J'espère que ce ne sera pas le cas.
Alexandra le disait, on entend beaucoup Gérald Darmanin en ce moment poser l'équation suivante. Il l'a dit très clairement au micro de France Inter la semaine dernière, et ça semble être l'équation de sortie de ce grand débat. Baisser les impôts d'abord et avant tout, gager l'existence des services publics sur des économies à faire. Prenez l'exemple du réseau diplomatique français ici même. Est-ce qu'on veut un réseau diplomatique de qualité? Est-ce qu'on veut tel et tel service public? Si oui, qu'est-ce qu'on fait comme économie par ailleurs? Est-ce que ce raisonnement-là est vraiment nouveau? La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a dit que plus rien ne serait identique après le grand débat national. Baisser les impôts, faire des économies. Est-ce que ces recettes-là n'ont pas 25 ou 30 ans?
Mais vous voyez bien quand même que finalement, tout cela révèle que pour l'instant, on n'en sait rien. Je ne sais pas si le gouvernement lui-même le sait. Et pour l'instant, on ne sait rien de ce que sera la porte de sortie. Plus rien ne sera comme avant. Tant mieux, si c'est pour que ce soit plus juste, c'est pour qu'on se préoccupe davantage de l'efficacité des politiques publiques, sur le fait qu'il y ait moins de pauvreté, sur le fait qu'il y ait moins d'inégalités, qu'il y ait davantage de services publics qui répondent aux aspirations des citoyens. Moi, je ne suis pas contre l'évolution de la CVT, elle n'est pas contre l'évolution des services publics. Mais quand on dit ça, et en même temps on dit... Par contre, il faudra que ce soit à la baisse et qu'on baisse les dépenses, et uniquement ça comme angle de vue, ben on a une pensée qui est un peu insuffisante, si je puis dire. Donc, vous savez, je ne crois pas qu'on s'en sortira sans l'affirmation d'un cap vers la transition écologique et vers de la justice. Et la justice, c'est pas forcément faire beaucoup plus, c'est faire différemment avec une autre distribution des richesses dans notre pays. C'est ça dont il s'agit.
Est-ce qu'instaurer la TVA à 0% sur les produits de base, c'est une bonne ou une mauvaise idée, Laurent Berger?
C'est intéressant en termes d'intuition. Le seul problème, c'est comme la TVA à 5,5, il y aura finalement, ça fera une petite baisse sur chacun des produits. Il est fort à parier qu'un certain nombre de distributeurs voient l'opportunité de le répertorier sur une hausse des prix directe. Donc, vous savez, moi, je crois beaucoup à une fiscalité qui repose davantage sur les revenus que sur la fiscalité indirecte.
Allez, avançons, Laurent Berger, sur la réforme des retraites maintenant. Elle sème la zizanie au sein de l'exécutif, ou la cacophonie pour l'exécutif et la majorité. Le président de la République, pour mémoire, avait pendant la campagne dit que l'âge légal de départ resterait à 62 ans, mais depuis 3 semaines environ, il semble que l'idée de reculer cet âge minimum de départ, cet âge légal, ne soit pas exclue. Qu'avez-vous compris de tout ça? Et 62 ans, est-ce toujours pour vous la ligne rouge?
Oui, mais moi, ce que j'ai compris de tout ça, c'est qu'il y a une cacophonie.
Mais
ce que j'en retiens,
plus,
c'est que le 10 octobre dernier, M. Delevoye, Mme Buzyn ont dit devant tous les partenaires sociaux, il n'y aura pas de remise en cause de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Et c'est là-dessus qu'on discute pour une réforme qualitative. C'est pour une réforme qui soit plus juste, plus lisible, des systèmes de retraite qui soient plus justes, plus lisibles.
Mais...
Et là, depuis quelque temps, on nous dit qu'il faut augmenter l'âge légal de retraite. Mais on nous le dit pas pour équilibrer les retraites, qui sont déjà à l'équilibre par des mesures qui sont prises. Contrairement à ce qui a été dit ici ou là, il y a eu ces réformes qui ont permis d'aller vers davantage d'équilibre des systèmes de retraite. On nous dit qu'il faut travailler plus longtemps pour financer autre chose.
C'est une forme
d'impôt, c'est une forme d'impôt sur le travail, finalement. C'est une autre façon de raisonner. Donc nous, on disait, non, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est l'âge légal, c'est 62 ans, les gens partent en moyenne à 62 ans et demi. Si vous augmentez l'âge, vous sanctionnez d'abord ceux qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui ont des métiers pénibles, ceux qui pendant leur carrière, en bavent. Et donc, c'est hors de question pour la CFDT, c'est clair. Deuxièmement, il faut être très clair sur est-ce qu'on va vers cette réforme systémique et dans le cadre de la concertation engagée par M. Delevoye. Si c'est le cas, on continue. S'il y a le report de l'âge légal, fin de la concertation.
Donc vous sortirez ce moment-là?
Très clairement, si l'exécutif annonce qu'il y a un report de l'âge légal à 63, 64, 65 ans, la CFDT, elle ne discutera plus avec M. Delevoye. Ça n'aura plus de sens.
Jean-Paul Delevoye vous dit quoi depuis qu'il y a cette cacophonie?
M. Delevoye continue de dire qu'il est sur 62 ans.
Et si l'exécutif dit qu'il est plutôt sur une piste d'allonger la durée de cotisation, ça n'est pas la même chose là, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais l'allongement de la durée de cotisation, c'est prévu par la loi Touraine de 2013. Pour les générations nées en 1973, il est déjà prévu d'aller à 43 ans. Vous savez, on n'a plus besoin de réformes paramétriques. sur le système des retraites. On a besoin d'une réforme qui soit de justice, qui soit qualitative, pour que les gens qui ont commencé à travailler tôt puissent partir plus tôt, pour que les femmes ne soient pas sanctionnées dans le système des retraites, pour que lorsqu'on a commis le chômage, eh bien, on ait une retraite meilleure. Mmh. Lorsqu'on a travaillé toute sa vie, pour qu'on ait un minimum contributif, comme on dit, qui soit autre chose que simplement 40 euros de plus que le minimum vieillesse. Nous, par exemple, on défend 100% du SMIC pour les gens qui ont travaillé toute leur vie au SMIC. En retraite. Voilà, il faut des mesures de justice et c'est ça qu'on veut. Si c'est pas le cas, si on va pas vers cela, eh bien, il y aura un problème.
Est-ce que vous pensez que la grande réforme des retraites promise, la retraite par points, un euro cotisé pour tout le monde ouvre au même droit, est-ce que cette réforme-là est menacée?
Ah oui, très clairement, si on va vers des logiques paramétriques, c'est-à-dire report de l'âge, elle est menacée.
On dira peut pas à ce moment-là, c'est pas la peine.
Mais on peut pas faire une réforme qualitative d'un côté, puis de l'autre côté nous dire, comme on a essayé de nous faire penser, hein, on va pour financer la dépendance ou autre chose, alors qu'il y a d'autres pistes, eh bien on va augmenter l'âge. On peut pas jouer sur deux tableaux. C'est soit cette réforme systémique, qualitative, soit c'est une réforme paramétrique. Si c'est la réforme paramétrique,
donc,
il y a no way pour l'autre.
Il y a un risque que l'exécutif abandonne la grande réforme promise.
En tout cas, s'ils vont sur l'allongement de l'âge, ça correspondra à ça.
Emmanuel Macron n'a pas pris la parole dans cette discussion. Il n'a pas du tout recadré le débat. Comment est-ce que vous le comprenez?
Moi, je le comprends parce que dit M. Delevoye, pour l'instant, c'est qu'il continue la concertation et il continue de dire que l'âge ne bougera pas au-delà de 62 ans. Et donc, on continue parce que cette concertation, depuis le début, elle se fait dans de bonnes conditions avec tous les éléments sur la table. Il reste quelques réunions, on verra à la fin. Mais encore une fois, ce serait un jeu de dupe de faire peser, par exemple, le financement de la dépendance sur les seuls travailleurs en leur disant « travaillez plus longtemps ». Ça ne serait pas une journée de solidarité comme ça a été fait à une époque, ce serait deux années de solidarité. Donc, il y a d'autres pistes qui ont été émises par le rapport Libault pour financer la dépendance, notamment à travers la continuité de la CRDS.
Vous y êtes favorable à
oui,
ça?
Oui, bien sûr, c'est une bonne. Il faut sans doute la compléter par l'évolution des droits de succession et des droits de donation pour avoir du financement supplémentaire, mais c'est une bonne voie. Ce rapport, il est excellent. Eh bien, suivons ce rapport.
Mmh. Le jour de solidarité supplémentaire, autre piste, vous y êtes favorable?
Non, mais c'est toujours ce système où, finalement, on essaye de faire payer aux salariés, aux travailleurs, la solidarité. Regardons comment elle peut se poser autrement. Et la CRDS, encore une fois, la fiscalité autre sur les patrimoines, peuvent aussi être une piste de financement de la dépendance.
Qu'est-ce que vous appelez la fiscalité haute sur les patrimoines?
Eh bien, c'est le fait de faire évoluer la fiscalité sur les donations ou les successions pour que ça peut contribuer notamment lorsqu'on fait donation de son vivant. Il y a des mécanismes qu'on peut faire jouer qui peuvent rapporter de l'argent pour pas que, si je parle vraiment des très hauts patrimoines, on a bien compris, hein, 50% du patrimoine en France est détenu par 10% des familles. Donc on peut jouer là-dessus pour avoir une source de financement supplémentaire en plus de la CRDS pour financer la dépendance.
Avant de donner la parole aux auditeurs, Laurent Berger, j'aimerais vous lire l'un des passages les plus rudes du livre des anciens conseillers d'Emmanuel Macron, Ismaël Emelien et David Amiel. C'est sur les syndicats, je les cite. La raison d'être des corps intermédiaires est remise en cause, comme le furent dans d'autres domaines, celle des porteurs d'eau au moment de l'invention de la plomberie, des taxis au moment de la création des applications comme Uber ou chauffeurs privés, ou encore des hôtels avec l'apparition des plateformes de location entre particuliers. Alors, que pense le secrétaire général des porteurs d'eau de cette analyse?
Je pense que, vous savez, je ne crois pas pouvoir être caractérisé de méprisant ou d'arrogant, pour ma part.
Vous?
Oui, je crois qu'il y a beaucoup de mépris, beaucoup d'arrogance, beaucoup de méconnaissance dans ce qui a été écrit et dit depuis la sortie de ce livre. Je crois, je ne sais pas d'où ces jeunes hommes parlent, quel est leur représentant, qui ils représentent, mais je sais une chose, c'est qu'ils n'ont pas dû voir des salariés depuis un petit moment et des syndicalistes depuis un petit moment. Et donc, je peux vous le dire, très très mal reçu par les salariés et les militants CFDT que je rencontre régulièrement. C'était le cas encore la semaine dernière à Fougères, à Saint-Brieuc, ou la semaine d'avant à Toulouse. Et ils le vivent, ces représentants des salariés, extrêmement mal, parce que ça leur donne le sentiment qu'on leur donne des leçons et donc qu'on leur dit, en gros, vous êtes de l'ancien monde et voilà le nouveau monde dont on sait pas ce qu'il va être en termes de solidarité. Donc, moi,
j'ai l'impression aussi à vous entendre que ça vous met en colère.
J'ai pas tendance à me mettre en colère, c'est pas ma personnalité. Mais là, franchement, je trouve que ça suffit et je trouve qu'ils ont un peu trop de temps d'antenne, si je peux me permettre, parce qu'on ne sait pas qui ils représentent. Et donc, s'ils veulent discuter syndicalisme, qu'ils viennent, on est prêt à leur expliquer à quoi servent les syndicats tous les jours dans les entreprises, administrations et même au-delà dans la société.
Mais est-ce qu'ils n'ont pas un point tout de même? Parce que vous-même l'avez dit, quand ils décrivent ainsi le fait qu'un syndicat ou les syndicats puissent être uberisés, vous l'aviez dit vous-même, on peut être uberisé, on peut être dégagé comme un vieux parti politique.
Vous savez, monsieur Demorand, moi je suis un de ceux qui a dit il faut que le syndicalisme évolue, sinon il va mourir. Eh bien, on peut le faire évoluer. On est en train de le faire évoluer, mais on n'a pas de leçon à recevoir.
Pour vous, ça, c'est du mépris?
Oui, bien sûr. Ouais, je le dis comme je le pense, c'est du mépris. C'est du mépris parce que la façon dont c'est exprimé, ça, vous avez lu une partie, mais il y en a d'autres. La façon dont c'est exprimé, c'est fait avec beaucoup d'arrogance et de surplombance. Et moi, je suis militant depuis maintenant une trentaine d'années. J'ai pas de leçon à recevoir de gens dont je ne sais pas qui ils sont, d'où ils viennent et d'où ils parlent.
Raphaël est au standard. Bienvenue, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors voilà, en fait, déjà, moi, je trouve que... merci de me recevoir. Et moi, je trouve que M. Berger colle très bien à la matinale de ce matin avec l'éditorial de M. Coty qui parle de pisse vinaigre et pisse froid pour les personnes qui pourraient se poser des questions sur le grand débat qui a quand même coûté 12 millions d'euros. Après un reportage sur les banques au CM1 et qu'on trouve ça très bien, je voudrais demander à M. Berger et à son syndicat qui se sont couchés pendant la réforme des retraites sous Nicolas Sarkozy, pendant la loi El Khomri sous François Hollande, la loi Travail XXL sous Emmanuel Macron, qui ont passé leur temps à dénigrer les gilets jaunes et encore maintenant, et quelle est leur légitimité de venir discuter de ce qui va suivre du grand débat?
Et bien ensuite, reçu.
Quand est-ce qu'ils vont nous proposer une grande grève générale qui est vraiment le seul moyen de faire plier une personne comme Thatcher ou comme Macron?
Bien reçu, merci Raphaël. J'espère que vous avez écouté la même matinale que celle sur laquelle vous êtes en train de vous exprimer. Mais j'imagine, oui, j'ai pas entendu d'éditorial de René Coty, si c'est bien le mot que j'ai retenu. Laurent Berger vous répond. Question rude, Laurent Berger.
Non, c'est pas une question rude. C'est d'abord, ça refait un peu l'histoire parce que on s'est opposé à la réforme des retraites en 2010. On a fait des millions, il y avait des millions de manifestants dans la rue et M. Sarkozy, il a effectivement passé cette réforme avec laquelle nous étions en désaccord. Pour le reste, vous savez, la seule manière de faire plier Mme Thatcher, malheureusement, ça n'a pas été la grève générale des mineurs qui l'a fait plier. Vous savez, moi, il y a l'espèce de mythe, en fait. On est pris entre deux feux. On est pris entre ceux qui pensent que le syndicalisme n'a plus rien à voir dans le monde d'aujourd'hui et ceux qui pensent que le syndicalisme devrait être comme avant, c'est-à-dire des manifestations et simplement des manifestations. Non, c'est plus subtil que ça, malheureusement, parce que les choses sont plus complexes. Donc, nous, on essaye de faire des propositions et on s'oppose lorsqu'il y a besoin de s'opposer, y compris par les manifestations, mais très ciblées, comme on l'a fait l'année dernière sur les EHPAD, comme on l'a parlé dans les établissements pour les personnes âgées, comme on l'a fait encore récemment pour Castorama, pour s'opposer à la fermeture de magasins, etc., etc.
Ce qu'on entend quand même dans la voix de cet auditeur, c'est qu'il y a toute une partie de la colère de certains Français qui n'est pas passée par les syndicats.
Oui, bien
et
sûr.
C'est là où peut-être cet auditeur a un point, tout comme Emelien et Amiel ont un point, les conseillers d'Emmanuel Macron. Les syndicats n'ont pas réussi à canaliser
mais
cela.
Mais les syndicats, ils ne sont pas exempts de reproches. Ils n'ont pas vocation à canaliser toutes les colères. Et puis moi, je rappelle que l'expression des gilets jaunes, elle était au départ très juste pour nombre d'entre eux autour d'un souci de justice sociale, de justice fiscale, et puis elle s'est aussi transformée aujourd'hui par des soubassements qui sont moins désirables d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous pensez
c'est-à-dire
à quoi
que, très clairement, on ne va pas se raconter d'histoire que ceux qui politiquement soutiennent les gilets jaunes aujourd'hui sont quand même majoritairement, on l'a entendu lors du débat sur les européennes, des partis d'extrême. Donc moi je le dis.
La France Insoumise, Rassemblement National.
En tout cas, il y a eu beaucoup de manipulation dès le départ par les partis d'extrême droite, ça a été évident, y compris voilà, donc je l'avais dit dès le départ. Ça ne veut pas dire que les aspirations légitimes qui ont été exprimées, elles ne doivent pas être entendues, et elles sont entendues, mais des choses qu'on disait depuis des années. Ceci étant, le syndicalisme, il doit évoluer, oui, bien sûr, il doit évoluer.
Alors comment?
Mais en
quelle
étant
très présent dans ce mouvement,
très présent dans les entreprises, très présent dans les entreprises, et c'est ce que nous avons fait depuis maintenant plusieurs années, ce qui fait que la CFDT est devenue la première organisation syndicale. Vous savez, j'étais dans un EHPAD à Toulouse, en banlieue de Toulouse, il y a quelque temps, la semaine dernière. Dans cet EHPAD, il y a 80 adhérents CFDT. Ils améliorent la situation concrète des salariés tous les jours par le dialogue social et par le rapport de force avec la direction. Et bien ça tombe pas du ciel. On oublie totalement que ça existe. À la fois ce monsieur, mais également les auteurs du livre dont on a parlé.
Allez, on passe au standard. Gilles, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour, merci. Bon, moi je suis donc Gilles Escala, je suis militant CFDT de Grenoble. Et j'ai participé au débat, au grand débat organisé par l'Union départementale avec la présence du secrétaire régional. Et j'adhère complètement aux propositions sur le pouvoir de vivre là qui est qui a été fait avec un certain nombre d'associations. Ceci dit, je sais pas trop comment au niveau de la base, on peut effectivement relayer des propositions qui sont prises par la direction de la CFDT, parce que si effectivement on s'en empare pas au niveau local, bon, ça reste des grandes intentions, et j'aimerais savoir comment la CFDT compte, dans une situation assez éclatée, hein, comme celle dans laquelle on est aujourd'hui, prendre l'initiative. Il y a des gens comme moi qui sont des jeunes retraités, qui sont encore très actifs, qui ont un grand savoir-faire et qui ne demandent que ça, de prendre des initiatives et d'organiser autour d'eux les initiatives qui sont prises par la direction. Je dois dire, les très bonnes initiatives.
Bah merci, voilà. Laurent. Bon, on va pas vous laisser en famille non. CFDT. Gilles, merci pour cette intervention. Intervention Laurent Berger.
Bonjour Gilles. Non, juste ce pacte du pouvoir de vivre signé avec 19 organisations, il prend tous les éléments de ce qu'on veut en sortie de grand débat, c'est-à-dire la transition écologique, la justice sociale, la démocratie. Dans les départements, à Tarbes, à Concarneau récemment, mais ailleurs, les représentants de ces 19 organisations, parfois 19, parfois 15, parfois 10, se regroupent en ce moment et essayent de bâtir des propositions locales adaptées à ces orientations du pacte du pouvoir de vivre. Donc l'idée c'est de mettre, et ce mouvement il nous l'a révélé aussi, il faut donner du pouvoir d'agir aux citoyens partout où ils sont, dans leur entreprise, dans les territoires. Et donc ces initiatives se mènent, nul doute qu'à Grenoble il y a possibilité de le faire.
Une dernière question au standard, qui est en ligne? Stéphane, Michel? Stéphane de Toulouse, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Oui. L'actuelle négociation sur la réforme de la fonction publique et celle en cours sur les retraites dont vous avez parlé ne marque-t-elle pas en réalité l'échec massif du syndicalisme de négociation alors que des manifestations le samedi auxquelles je participe, et je suis syndicaliste tous les samedis après-midi, ont marqué, elles, un rapport de force bien plus important à la société.
Merci Stéphane pour cette question. Laurent Berger.
Mais le syndicalisme, c'est plusieurs dimensions. Il y a une dimension de rapport de force qui se passe par les manifestations, par la qualité des propositions, par le fait d'être nombreux à être adhérents, par exemple, dans une entreprise. Et puis, il y a une autre dimension qui est complémentaire, qui est la capacité à s'engager dans le dialogue social, à faire que ces propositions, on essaye de les faire aboutir. C'est vrai que quand on a en face de nous des gens qui écoutent pas, c'est plus compliqué. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas opposer deux styles de mobilisation. Jusqu'à preuve du contraire, vous savez, moi, j'en ai fait sans doute beaucoup plus que beaucoup d'autres des manifestations dans ma vie. Il faut qu'elles aient une ambition, un mot d'ordre qui permet de voir si on y arrive ou pas. Mais l'expression de la colère, il faut que ça passe de la colère à l'engagement. Et l'engagement, c'est des propositions concrètes, comme on l'a fait avec ce pacte du pouvoir de vivre pour une transition écologique juste. Et puis la capacité, dans les territoires, dans les entreprises, mais aussi au niveau national, à faire aboutir ces propositions, ces revendications. Quand on a en face des interlocuteurs qui n'écoutent pas, j'avoue, c'est plus difficile. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer.
Une loi de programmation écologique qui serait soumise à référendum, c'est ce qu'a proposé le ministre de Rugy. Est-ce que vous y êtes favorable? C'est une idée intéressante pour vous?
Oui, s'il y a des débats et s'il y a en amont, pour regarder ce qu'il y aurait dans cette loi, et s'il y a des vraies politiques d'investissement financier dans cette transition écologique. C'est pour ça qu'au niveau européen, moi je soutiens l'initiative du pacte finance-climat. C'est-à-dire s'il n'y a pas une vraie politique d'investissement dans la transition écologique, ça n'a pas de raison d'être. Mais c'est pour ça qu'il faut cette politique d'investissement. Mais après, arrêtons de sortir petit à petit des mesures comme ça, dont on ne sait pas si elles sont justifiées ou les idées de tel ou tel, et essayons d'aller vers un axe très clair, d'un cap qui évoluerait vers la transition écologique et la justice sociale.
Laurent Berger, merci, secrétaire général de la CFDT. Écoutez, on va vous laisser filer au Grand Palais pour cette restitution du grand débat national par le Premier ministre ce matin.